Pour enregistrer cet épisode, je suis allée à Paris et à Marseille. À Marseille, j'ai retrouvé dans un café en bas de chez elle la chorégraphe, danseuse et chanteuse Dorothée Mugnanesa, qui est artiste associée à la Maison de la Danse de Lyon, mais aussi au Théâtre National de Chaillot, à Paris, où je me suis également rendue pour y rencontrer son directeur, Rachid Ouramdan. Chaillot. Le palais de Chaillot. Je suis certaine que vous connaissez. Vous êtes sûrement passé devant en descendant à l'arrêt de métro Trocadéro pour aller voir la Tour Eiffel. C'est au palais de Chaillot qu'a été signée la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, mais c'est aussi le seul théâtre national dédié à la danse en France. J'ai souhaité rencontrer ces deux personnalités pour leur demander comment, à leurs endroits, ils et elles font pour créer un théâtre inclusif, qui raconte d'autres récits, qui ouvre d'autres imaginaires, un théâtre des diversités. Je suis Marion Coutel, vous écoutez Non ma fille, vous n'irez pas danser, un podcast de la Maison de la Danse de Lyon, épisode 5.
Il y a un mot qu'on appelle en Kinyarwanda, qui est ma langue maternelle, donc la langue du peuple rwandais, qui dit « iwachu ». Et « iwachu » veut dire « chez nous ». Et donc pour dire réellement d'où je viens d'iwachu, je viens du Rwanda, où j'ai grandi. J'ai passé toute mon enfance jusqu'à mes 12 ans à Kigali. Et là-bas, c'est un environnement très riche, à la fois humainement et culturellement. J'en garde de très bons souvenirs, notamment en famille, chez moi, dans mon quartier, où on recevait beaucoup. Mon père étant pasteur et ma mère était journaliste. Et donc, on avait souvent des personnes qui venaient nous voir et qui venaient d'étrangers ou des personnes qui étaient rwandaises. Et on chantait beaucoup. Je m'en souviens parce que c'était quelque chose qui me plaisait. Enfin, le chant, entendre les voix, la voix de mon père, la voix de ma mère, de ma grand-mère aussi qui vivait avec nous. Et donc, j'ai grandi dans cet univers à la fois très généreux de la part de mes parents, enfin, où l'amour était réellement... quelque chose qu'ils cultivaient autour de nous. Et en même temps, où j'allais à la campagne, donc étant une enfant qui grandissait en ville, ils nous envoyaient à la campagne et j'aimais beaucoup aussi regarder... le Rwanda, c'est un pays très vallonné, donc avec des collines, des courbes, la terre rouge. Et c'est des choses auxquelles je suis encore aujourd'hui très sensible. Et les voix de mes grands-mères, jusqu'à ce jour, m'accompagnent encore parce qu'elles-mêmes chantaient beaucoup, dansaient beaucoup. Et une de mes grands-mères était guérisseuse, donc elle s'occupait beaucoup des corps des autres. Et elle était sage-femme également. Donc le fait qu'elle ait ce don-là, ou en tout cas cette capacité-là, c'est quelque chose qui m'est resté jusqu'à ce jour. Et peut-être que la scène, pour moi, est devenue comme un lieu de commémoration. À la fois des miens, mais aussi de la vie autour de moi. Donc j'ai grandi au Rwanda jusqu'à mes 12 ans. Et à cette époque, ma mère travaillait à Londres. C'était en 93. Elle est partie en 93. Et avec mon père, ils avaient décidé qu'ils allaient déménager pour aller s'installer donc à Londres. Sauf qu'en avril 94, il y a eu le génocide des Tutsis. Au Rwanda, et nous y étions. Donc on a perdu contact avec ma mère qui était à cette époque donc en Angleterre. Et à l'été 94, elle a décidé de... Enfin, elle a pu venir au pays, elle a pu revenir au Rwanda par des circonstances miraculeuses, je pense, et nous a retrouvés. Et donc à ce moment-là, mes parents... Enfin, comment dire, ils savaient qu'on devait partir, donc on a quitté le Rwanda, on est parti nous installer donc à Londres. Et on avait tous les papiers. Enfin, parce que souvent, je pense que on a pu penser qu'on était réfugiés, qu'on s'est réfugiés en Angleterre parce qu'il y avait le génocide des Tutsis, mais en fait, ça faisait partie de la volonté de mes parents de s'expatrier. Et donc, moi, souvent, je le précise pour ne pas qu'on pense qu'on est parti parce qu'il y avait le génocide des Tutsis. Et surtout, on est parti de façon très légale et le bureau de ma mère avait même acheté les billets pour nous ramener.
C'est vrai que souvent, quand j'entends autour de moi des gens qui disent « Ah, c'est à ce moment-là que j'ai voulu être danseur », avec une sorte d'élément déclencheur. Moi, j'ai juste tout le temps aimé danser, et puis mais d'abord de pratiquer la danse, de bouger. Et gamin, dans les années 80, c'était l'arrivée du mouvement hip-hop en France, avec des figures importantes comme Futura 2000, le Tiger, Afrika Bambaataa, pour ce qui était de la musique. Et voilà, j'ai commencé à danser d'abord avec des amis, et puis j'aimais cette chose qui était d'investir des sites, de se mettre dans la rue. Et j'ai toujours dansé comme ça en parallèle de toutes mes autres activités. Et puis finalement, c'est plus tard, à la fin de l'adolescence, vers l'âge de 15-16 ans, que j'ai commencé à prendre des cours de danse parce que j'aimais danser. Le hasard a voulu que des personnes m'ont dit ben, « Tiens, viens danser avec nous ». Et là, j'ai découvert ce qu'était une danse au sens plus artistique, au sens plus mis en scène. C'est là que je découvre des gens comme Caroline Carlson, Dominique Bagouet. Mais tout ça vraiment tout le temps en parallèle d'études. Et puis un jour, c'est la blague habituelle. J'accompagnais des amis pour passer une audition, mais moi, certain que je ne serais pas retenu. Et je venais surtout là pour me prendre un cours de danse gratuit, parce qu'une audition ne vous fait pas payer le cours. Et je profitais de ce plaisir à prendre des cours. Et j'étais retenu pour le CNDC d'Angers. Et à partir de là... Mais là encore, il n'y avait pas vraiment l'idée de devenir danseur. C'était plutôt m'accorder un moment de répit dans mes études de biologie à l'époque. Il me disait, bon, je reprendrai mes études plus tard en fonction de comment ça se passe. Et puis bah, après, voilà, après l'école d'Angers, des premières propositions. Puis on accepte les premières propositions en se disant que de toute façon, on pourra toujours faire autre chose un jour. Et puis après, un jour, vous réalisez que ça fait déjà 10 ans que vous dansez. Puis vous n'avez pas fait autre chose. Vous êtes resté danseur, vous êtes devenu danseur et vous travaillez dans le champ de la danse depuis des années. Et puis que vous vous rendez compte que vous savez faire des choses dans ce champ-là, donc vous y restez. Même si après, ça c'est toujours la lecture que je fais un peu au travers de la pratique de la danse, parce que je vois bien que le fait de devenir artiste, et puis c'est des choses qu'on comprend, en tout cas que moi j'ai compris rétroactivement, cette façon de prendre la parole, parce que c'est souvent quand on me dit mais comment ça a commencé la danse, les premiers cours de danse, etc., ben, soit je réponds là, soit je dis ben, soit je vous parle de la guerre d'Algérie, soit je vous parle de mon premier cours de danse, c'est-à-dire parce qu'il y a l'école de l'art d'un côté, puis il y a l'école de la vie de l'autre, et je pense que ce qui me fait artiste aujourd'hui, c'est tout ça en même temps, cet engagement, cet envie de prendre position, cette envie de donner la parole, d'aller sur des sujets qui, j'ai l'impression, méritent d'être partagés parce qu'ils ont été souvent invisibilisés, ignorés. Ça, je ne vais pas mentir, c'est mon héritage culturel, c'est mon histoire familiale qui me fait me positionner comme ça dans le champ de l'art. Donc c'est quelque chose qui est très en lien, en fait, cette histoire de bouger, pratiquer la danse, mais aussi tout ce que l'on vit qui fait qu'on bouge et qu'on s'implique de telle ou telle façon. C'est-à-dire, donc, quand je commence à prendre mes premiers cours de danse, c'est ce qu'on appelle du modern jazz, de danse moderne. Et puis, assez vite, le professeur que j'ai à l'époque, Martine Foro, dès la première année, me dit « Oh, mais tu devrais pratiquer bien plus. On sent qu'il y a des facilités. T'as un corps entraîné. » Parce que je pratiquais beaucoup de sport collectif, sport individuel. Donc, il y avait un corps qui répondait. Et c'est là que la première année, voilà, un cours de moderne. La deuxième année, tout de suite, cours de classique, de bar à terre, de moderne toujours. Je rentre au conservatoire dans la foulée. Oui, ma troisième année de danse, ça y est, j'ai un cours de danse tous les jours. Et la quatrième, je pars à la fac, au conservatoire de Grenoble. 4 ans plus tard, je rentre au CNDC d'Angers. Donc voilà, en l'espace de 5-6 ans, je deviens danseur professionnel entre mon premier cours de danse et la première compagnie que je rejoins. Et donc là, oui, là, c'est des esthétiques. Je découvre la richesse de la création contemporaine avec tous les artistes avec lesquels on était en contact à l'époque dans cette école européenne, hein, qui est l'école d'Angers, où il y avait des étudiants qui venaient de toute la planète, essentiellement européens, mais pas que. Et puis aussi une école qui nous faisait beaucoup voyager, on participait à des universités d'été aux États-Unis, on avait des tournées en Europe, on était dans des programmes de coopération culturelle avec des opéras, avec des ballets, donc on rencontre beaucoup de choses.
comme je disais, vu que je voulais pas l'être, quoi, c'était pas ça. Il y a jamais eu de déclaration de ça. Après, bon, je viens quand même d'une famille, voilà, de parents illettrés, analphabètes, avec un père qui m'a eu très âgé, 20 années d'écart entre mon père et ma mère mariée à l'âge de 14 ans à un homme de 34 ans, mon père, bon, dit comme ça, ça paraît toujours des mariages arrangés, forcément, mais voilà, je crois qu'ils se sont aimés, qu'ils ont été heureux, malgré cette façon, on va dire, culturelle de faire les choses. Et donc, c'est vrai que, en fait, leur seul souci, c'était que leurs enfants s'intègrent, réussissent dans ce pays que eux parfois avaient du mal à comprendre, dans lequel ils étaient en rupture culturelle, parfois ils maîtrisaient pas toujours tous les codes, etc. Donc je crois que je fais partie de cette chose qu'on identifie souvent dans les enfants issus de l'immigration, c'est-à-dire que très vite vous devenez autonome, voire plus autonome que vos parents, vous saisissez les codes plus rapidement, vous bénéficiez d'un enseignement de l'école de la République, donc vous êtes beaucoup plus à l'aise avec une langue, la façon dont je vous parle français là, ma mère n'aurait pas été en capacité de le comprendre de cette façon-là. Donc voilà, c'est tout ce qui... Leur seul souci était qu'on puisse s'en sortir. Et d'ailleurs, pour eux, qu'on soit mécanicien, docteur, avocat, footballeur, parachutiste, je ne sais quoi, le critère, et je me rappelle très bien, hein, d'ailleurs, ils se retournaient souvent vers nous, en fait, pour savoir si on était heureux et si on pensait qu'on allait s'en sortir et qu'on faisait les bons choix, mais les choix qu'on prenait, ils ne les maîtrisaient pas tout le temps. Donc, en fait, je me suis mis à danser sans avoir à convaincre qui que ce soit, sans avoir à trop en parler. D'ailleurs, mes parents m'ont peu vu danser, en tout cas mon père très très peu, ensuite il est décédé. Et pour ma mère, c'était un travail comme n'importe quel autre travail. Parce que c'est vrai que souvent on peut se dire, ah bah tiens, il y a un préjugé sur qu'est-ce que c'est qu'un artiste, mais en général, ils n'en étaient même pas là pour eux. C'était ramené à des choses très basiques. Ils voyaient juste que leur enfant était capable de subvenir à ses besoins très jeune. Parce que voilà, je suis devenu danseur professionnel à l'âge de 21 ans et tout de suite, ça a été très très vite. Donc, ils se posaient pas plus de questions que ça. Hein. Puis oui, c'était des personnes qui n'allaient pas au spectacle, qui ne savaient pas trop ce que c'était, qui pouvaient en avoir une représentation. Mais c'est une anecdote que je raconte souvent, une fois où je jouais à Genève, j'étais en tournée en Suisse, donc tout près de ma famille était en Haute-Savoie, donc pas loin de Genève. Et un jour, je prends ma mère avec moi, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue, je lui propose de passer la journée à Genève ensemble et le soir, je lui dis, est-ce que tu veux rester pour le spectacle? Et elle me dit, ah non, non, je ne veux pas te déranger au travail. Et c'est, pour moi, ça dit tout, en fait, l'écart qu'il y avait entre nous. C'est-à-dire que, voilà, c'était aller sur un lieu de travail, comme j'aurais pu lui dire, est-ce que tu veux venir me voir dans mon atelier de construction? Oui, je crois qu'il y avait un vrai fossé culturel entre nous. Et du coup, qui n'a pas été un frein, mais ni non plus un soutien. C'était, on nous laissait, mes frères et sœurs, nous construire et ils faisaient confiance à... Je crois que vraiment ce qu'ils observaient, c'était, comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'on semblait heureux, est-ce qu'on semblait s'en sortir, et quand on avait besoin d'eux, ils essayaient d'être là. Donc non, il n'y a pas eu de difficultés familiales ou culturelles, parce que c'est vrai, quand on vient d'une famille musulmane, on se dit, ah tiens, l'a priori, sur la représentation du corps, bon, pas du tout. Rien de tout ça. Et c'est vrai que... Mais de la même façon que je le disais tout à l'heure, il n'y a pas eu un moment déclic où je me dis, ah tiens, je vais devenir danseur. Ça s'est fait un peu comme une lente tectonique, comme ça, où c'est après coup, on se dit, bah tiens, je suis devenu danseur.
À Londres, donc, j'y ai passé 14 ans. Enfin, en Angleterre, parce que j'ai passé 4 années à l'université à Canterbury. Mais la grosse majorité, c'était à Londres. Et là-bas, j'ai pu être dans une... j'ai été la première élève d'une école de musique qui s'appelle Jonas Foundation, où j'ai pu vraiment suivre des cours de musique, de chant, pendant 7 années. Jusqu'à l'université, où j'ai pu aussi continuer les études en musique et les sciences sociales. À ce moment-là, quand j'ai terminé mes études, je ne savais pas trop si j'allais en faire un métier. Enfin, pour moi, c'était d'abord l'apprentissage. Ce qui m'attirait au fond, en vrai, c'était la musicothérapie. Mais à cette époque, je n'étais pas suffisamment âgée. Visiblement, ils m'ont dit qu'il fallait que j'atteigne l'âge de 30 ans pour pouvoir poursuivre ces études-là. Et je ne les avais pas, j'avais 25 ou 26. Et à ce moment-là, j'ai ma grande sœur qui me parle d'un projet à Londres où ils cherchaient c'était pour un film, pour faire des voix off pour un film qui se passait au Rwanda pendant la période du génocide des Tutsis en 94. Je l'ai accompagné, on a fait les voix off, et en quittant le studio, le producteur me dit, mais j'ai eu dire que tu faisais de la musique et tu chantais, est-ce que ça t'embêterait de regarder un extrait du film, un autre extrait du film où on cherche un morceau pour cette séquence? Et donc je l'ai regardé, je leur ai proposé quelque chose. Et ils ont dit, prenez l'avion le lendemain, on vous emmène à Rome et on va enregistrer ce morceau. Et après cet enregistrement, il m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait de poursuivre notre collaboration? Est-ce que tu aurais des musiques que tu aimerais enregistrer? Donc j'ai dit, oui, j'ai des choses. Donc là, on a enregistré un album. Encore une fois, je n'envisageais pas la musique, parce que c'est vraiment principalement la musique que je faisais à ce moment-là, comme une carrière. C'était vraiment des expériences, de l'apprentissage, des rencontres. Je faisais des concerts dans des clubs au sous-sol à Leicester Square. Mais n'empêche que voilà, j'avais ce don-là, ce talent-là. Et un jour, une amie que j'avais rencontrée à l'université, qui est franco-britannique, Olivia Amos, m'a parlé d'un projet sur lequel travaillait une autre amie et qui était assistante de François Véret. Et elle me dit qu'il était à la recherche de voix pour son prochain projet. Et est-ce que ça m'intéressait de le rencontrer? Et il m'a invité pour un temps de laboratoire à Lille, à l'Opéra de Lille. Et c'était la première fois où j'ai rencontré un chorégraphe de ma vie. Un chorégraphe de danse contemporaine occidentale. J'étais intriguée. Enfin, ça m'a bien plu. Cette rencontre, et puis il m'a invité pour qu'on collabore ensemble, donc sur Sans Retour. Et ça, c'était en 2006, à l'été 2006. Ma première expérience sur un plateau avec d'autres danseurs, d'autres artistes. Et moi, je suis arrivée là comme chanteuse et musicienne. Et au fil du temps, des projets, parce que François Véret m'a invité sur 4 projets. Le dernier sur lequel j'étais, il m'a aussi invité à danser. Et je pense que c'est là. Parce que j'aime danser. J'ai grandi avec la danse traditionnelle rwandaise. Traditionnelle rwandaise, mais aussi d'autres types de danse des Grands Lacs. Donc là, le mouvement n'était pas étranger à mon corps. Mais n'empêche que il a fallu encore plusieurs années d'autres invitations de la part de Robin Orlin ou Rachid Ramdan ou Mark Tompkins ou Alain Buffard. Et c'est en fait avec Alain Buffard, notre rencontre était en 2010-2011, et il m'a invité sur un projet qu'on a créé en 2012, où je me suis dit ça serait bien que je fasse quelque chose moi-même. Alors j'ai créé ma compagnie artistique à Marseille, où j'habite. Pour moi, ça a été, comment dire, vraiment, je vais dire une chose étonnante. En fait, à la base, je n'y allais pas en me disant « je suis une femme ». La première chose à laquelle je faisais attention, surtout, c'était le fait que je sois racisée, enfin, que je ne sois pas blanche. C'était ça qui m'inquiétait d'abord. Enfin, cette présence-là, qu'elle soit non pas acceptée, parce que on peut ne pas l'accepter, de toute façon, ça ne changera pas. Je ne peux pas changer ma couleur de peau, je ne peux pas changer mon héritage. Cependant, j'avais fait tout un cheminement. Quand j'ai créé ma compagnie, je ne l'ai pas créée hors sol. Enfin, il y a toute une expérience qui a précédé cette création de compagnie et qui fait que, quand je me suis enfin présentée, dans les institutions, auprès des directeurs ou directrices des lieux, en fait, je suis allée surtout vers les personnes qui me connaissaient déjà parce qu'ils m'avaient vue ou qu'elles m'avaient vue dans d'autres projets. Mais j'étais jeune. Donc c'est il y a 10 ans, mais une chose qui m'a rendue, je pense, qui m'a donné de la force, de la puissance, c'est parce que je venais d'être mère aussi. Et donc la création de ma compagnie et la naissance de mon aîné, de mon enfant aîné, en fait, je sais pas, il y a une chose qui a basculé dans mon corps et dans ma tête, qui était, je me suis ancrée, enfin, je me sentais ancrée, je me sentais forte, en fait, de, enfin, je n'avais, en fait, je me suis dit, n'aie crainte. De toute façon, j'ai vécu le pire, c'était en 94, pour moi. C'est-à-dire que je peux avancer, si je me prends des portes fermées ou on me refuse un certain accès, c'est leur perte, ce n'est pas la mienne, parce que j'ai tenté, j'ai essayé. Cependant, je pense que la plupart des personnes auxquelles je parlais ont été assez réceptifs. Ils ont entendu notamment pour Samedi Détente la première pièce, elle a beaucoup intéressé et j'étais bien entourée par notamment Emmanuel Magis qui m'accompagnait au niveau de la production, de l'administration. Cependant, aujourd'hui, quelques années plus tard aussi, je me dis, le fait que ce soit un homme blanc qui m'accompagne, ça... Comment je vais dire ça? Je crois que ça donnait de la légitimité à ma présence. Je serais... Et à cette époque, comme si il y avait besoin, ce n'est pas ce que je recherchais, mais je pense que dans mon inconscient ou l'image qu'on m'a envoyée, le fait d'être accompagnée, déjà, être accompagnée, parce que de toute façon, je ne pouvais pas le faire seule, il y a des compétences que je n'ai pas. Ce binôme conformé, pour moi, à cette époque, je me demande aujourd'hui, est-ce que j'aurais été reçue de la même manière si j'avais été seule ou avec une femme, ou une femme qu'elle soit blanche, et encore moins, ou encore plus, une femme racisée, quelle aurait été la place qu'on m'aurait donnée ou que j'aurais reçue. Mais avec le temps, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est de plus en plus dans mes projets, les femmes sont toujours très présentes, que ce soit mon équipe technique, c'est que des femmes. Sur les plateaux, la plupart du temps, c'est des femmes. Enfin, je le fais... Je ne le dis plus, enfin, je ne le dis pas, mais je sais que c'est ça qui m'importe, c'est d'être le plus nombreuse possible dans des espaces, en fait, sur le plateau et hors plateau. Je ne veux pas être seule, en fait, dans ces espaces. Et plus on est nombreuse, mieux je me sens. En fait, cette inquiétude que je nomme, elle n'est pas liée simplement au monde du spectacle vivant. Elle est liée au fait que la société dans laquelle je vis, être noire, être africaine, est une chose qui m'est renvoyée tout le temps. Enfin, c'est une réalité. Je ne peux pas la nier. Et en tant que femme africaine ou femme visiblement noire, je suis toujours, même enfant, enfin jeune fille, en grandissant en Angleterre, on est consciente de cette réalité-là. Donc, il y a des modes de vie, des modes de survie même par moment, qu'on adopte pour naviguer des espaces qui peuvent parfois être hostiles à notre présence. Alors, quand j'ai rencontré Emmanuel Magis et que j'allais créer ma compagnie, je pense que on s'est choisi, et c'est des années plus tard, effectivement, si j'y repense, je pense que le système nous fait croire, ou en tout cas, je pense pas qu'à ce moment-là, je me disais, il me faut un homme blanc pour me sentir légitime dans cet espace, mais je crois qu'inconsciemment, quelque part, l'homme blanc, qui est souvent projeté comme étant l'être parfait, enfin c'est le dominant parfait, me donnait cette, enfin c'était comme une sorte de bouclier ou en tout cas de justification de ma présence ou ouais qui donnait la légitimité à ma présence. Mais ce n'est pas ce que je me suis dit à cette époque quand j'ai commencé. Je pense réellement que j'étais plutôt contente d'avoir quelqu'un qui veuille bien travailler avec moi à cet endroit-là. Mais aujourd'hui, je sais que je ne vais pas aller chercher un homme. Puisqu'on n'est pas nombreuses dans ces espaces-là, si je peux avoir le luxe ou en tout cas la capacité d'embaucher ou d'être accompagnée par une femme ou des femmes, je vais d'abord, en premier lieu, privilégier cette option-là. J'aimerais que ce ne soit pas une exception. Parce qu'un homme qui s'entoure que d'hommes, on trouve ça tout à fait normal. On ne le questionne pas, on ne le juge pas, on ne trouve pas ça hors norme ou extraordinaire. Et même, en plus, Parce que souvent, on m'a posé des questions comme « Mais vous êtes entourée avec des femmes noires, enfin des femmes africaines ou afrodescendantes. Pourquoi est-ce que c'est normal ?» Et je me dis, mais est-ce que vous demandez vous posez la même question aux personnes blanches qui s'entourent que de personnes blanches sur un plateau? Pourquoi tout à coup ça devient quelque chose d'inhabituel? Enfin, et donc pour moi, le fait d'avoir une équipe technique 100% féminine en plus, vraiment la régie, c'est encore vraiment trois filles avec lesquelles je travaille depuis longtemps, Marion Piri, Marine Levé et Camille Frachet. Et quand ce ne sont pas ces trois-là, elles trouvent d'autres femmes.
Il faut s'inscrire dans un mouvement. On a toujours envie de répondre de façon rapide. On a toujours envie d'être efficace. On a toujours... Et en même temps, c'est aussi ce qui peut parfois nous faire commettre, rater une réflexion. C'est-à-dire trouver de façon artificielle des rééquilibrages, mais qui en même temps ne changent pas les mentalités, ne changent pas les regards. Je dis ça parce que pour m'être beaucoup impliqué sur des formations en matière d'égalité des chances, etc., de représentativité, il y a plusieurs sujets. Par exemple, on se rend bien compte que c'est pas parce que vous allez mettre sur scène des personnes qui représentent une certaine diversité culturelle française que vous allez obligatoirement transformer les usages et faire en sorte que le public soit aussi diversifié, que les concours d'entrée aux grandes écoles aient une attention sur la diversification. Ce qu'il faut, c'est vraiment agir sur les imaginaires, sur les consciences. Et ça c'est un processus. Ça se décrète pas par quota. C'est important d'agir. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas des quotas. C'est important, ça aide. Mais ça ne suffira jamais. Il faut créer le cadre pour qu'il y ait plus de parité. Il faut créer le cadre pour qu'il y ait plus de diversité. Cet exemple que je donne souvent, quand j'ai eu la chance de m'impliquer auprès de Stanislas Nordet dans le projet Premier Acte, en fait, ça partait d'un constat assez simple, de dire, voilà, sur les plateaux de France, le théâtre français est très blanc. Et quand vous questionniez des jeunes metteurs en scène, vous leur dites, mais c'est quoi ton prochain projet? Bon, je vais travailler avec telle et telle personne. Et assez naturellement, ils vous répondent, je vais travailler avec mes camarades de promo. Et quand on leur dit, mais vos camarades de promo, vous ressemblez un peu beaucoup, non? Oui, mais en même temps, ils partent de quelque chose qui est assez naturel, la complicité qu'on a avec des gens qui nous entourent. Donc après, il faut se dire, mais pourquoi cet environnement est aussi uniforme? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas mis en place une complicité qui soit faite de gens divers? On a une sorte de responsabilité quand on est à la tête de lieux de formation, quand on est artiste, quand on a des responsabilités en matière de culture, etc., et d'enseignement. Donc plutôt que de dire, voilà, de toute façon, on va le prendre par le biais de l'insertion. Donc là, on prenait le segment de la formation, d'accord? Parce que les sujets sont différents. Si on parle de produire, de comment on diversifie, comment il y a une forme de représentativité dans les jurys, parce que c'est sûr que si les gens qui choisissent qui rentre dans les écoles, qui a des subventions de création, mais que si ces jurys sont uniformes, quoi, il y a une capacité à reproduire du même. Donc la question, elle est un peu là, c'est-à-dire comment on met en place des choses qui font qu'on sort d'une reproduction à l'identique et du même. Comment on ne fait pas que reproduire ce qu'il y a? Parce que parfois, certaines personnes, et je trouve ça toujours assez dangereux, parce qu'on n'est pas dans une forme de discrimination active, les gens te disent « Ah non, mais moi, je suis tout ça, je suis ouvert d'esprit, bien sûr que non, je suis ni raciste, ni misogyne, ni blabla, ni blabla. » Et en même temps, on voit bien qu'il y a une culture qui a des forces centrifuges, qui a une capacité à invisibiliser des gens, à tenir à l'écart certaines personnes. Et si on se pense juste éclairé, informé, on se rend même complice en réalité de ce qui se passe. Et c'est là où j'en arrive à penser qu'il faut, il faut être un peu volontariste. En fait, je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai fait partie, je pense, de ces gens qui, à un moment donné, disent, on va pas soutenir plus quelqu'un parce que c'est une femme, on va pas soutenir plus quelqu'un parce que c'est une personne de couleur. Au contraire, c'est le stigmatiser, c'est une assignation identitaire, c'est réduire la personne à un aspect de sa personne, alors que la personne est bien plus complète. Donc, je vois bien comment j'y allais, mais en même temps, je vois bien aussi l'inefficacité que de se contenter de ça, de se dire ça, les choses vont se faire de façon plus naturelle. Donc, à partir de là, vous vous dites comment on crée des conditions pour de la diversité. Donc je poursuis le fil de cette fameuse promotion, premier acte. Stan avait eu cette intelligence de dire, mais non, ce qu'il faut, c'est qu'on... Alors, bien sûr, il y avait une forme d'acte volontaire qui était de dire, nous allons faire une promotion d'acteurs victimes de discrimination dans la pratique de leur art. Donc, les personnes qui venaient à l'audition, nous, on les regardait pour le talent qu'ils avaient, mais aussi parce qu'à un moment donné, ils avaient été tenus à l'écart de la possibilité d'exprimer leur art par un geste de discrimination. Alors, c'est complexe parce que quand vous vous retrouvez dans cette situation, c'est-à-dire, on se dit, ça vous renvoie aussi beaucoup de questions. Comment on va hiérarchiser les formes de discrimination? Parce que quand vous avez un trans qui arrive, qui vous dit, moi, c'était par rapport à ça, moi, c'est par rapport à la couleur, moi, c'est par rapport à mon handicap. Donc après, on s'était quand même plus recentré autour de la discrimination pour des raisons de diversité culturelle. Et puis, ensuite, vous formez ces gens, ils participent à des masterclass, et ils concourent à l'entrée à certaines écoles. Et tout d'un coup, vous avez œuvrer à un peu plus de diversité dans cette chaîne qui forme des artistes. Et puis après, c'est une fois que vous avez créé cet environnement différent, la réponse que vous donnez tout à l'heure, que je donnais tout à l'heure à la place de certains metteurs en scène, vous dites je travaille avec les gens qui m'entourent. Ces gens se mettent à travailler avec des gens qui l'entourent. Et c'est là où on a œuvré à ça. Et puis, tous les dispositifs après d'aide à l'embauche, tous ces gens-là ont bénéficié. Et alors là, je parle de cette expérience, c'est une expérience pour laquelle je suis passé, mais je dirais que c'est un peu la même chose à tout niveau. C'est-à-dire que j'entendais encore récemment un débat en matière de parité sur mais il faut nommer des femmes. Effectivement, il faut nommer des femmes, c'est important. J'ai des échos, j'accompagne, je réfléchis avec des partenaires et je vois des shortlists arriver parfois, j'entends, j'échange, je suis consulté et je vois qu'il n'y a que des hommes qui ont candidaté. Alors, après, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On se dit, allons en parler à certaines artistes pour les motiver à candidater. Pour moi, la question qui m'arrive, c'est pourquoi elles n'étaient pas dès la shortlist? Donc, je ne vais pas le prendre en bout de chaîne, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Entre guillemets, on peut toujours trouver des solutions après, sur ce bout de chaîne. Et c'est très bien, et c'est déjà des premiers gestes. Mais si on n'a pas solutionné le problème qui font que ces femmes n'ont pas candidaté, ou alors quand elles étaient une en face de 18 hommes, ça pose un vrai problème. Donc c'est à cet endroit-là, en fait, qu'il faut essayer de travailler. Donc ça veut dire, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je parlais de travailler dans la durée, dès la formation, qu'est-ce qui fait que ces personnes ne se sentent pas légitimes à candidater à la tête d'institution, alors que proportionnellement les femmes sont plus nombreuses dans le monde de la danse. Qu'est-ce qui fait que culturellement les garçons vont avoir plus tendance à s'affirmer dans ce secteur-là, etc. Donc voilà, il faut travailler à tous ces endroits-là. En étant quand même attentif à, parce que je pense que ce que je vous disais tout à l'heure, les quotas ne vont pas tout résoudre, mais il faut y être attentif, c'est un des outils parmi les multiples outils pour tendre vers plus d'égalité. Et là à Chaillot, concrètement il y a 9 artistes associés, 5 femmes, 3 hommes, un collectif, et c'est vrai que c'était important pour moi qu'on fasse un geste fort d'emblée avec une présence plus importante des femmes associées à l'établissement. Et puis, même si très sincèrement, c'est à la fin que je regarde ça. D'abord, je pars de projets qui m'intéressent quand je construis une saison. Je commence à regarder, à lancer. Et à un moment donné, je compte. Et là, par exemple, sur la saison qui est en cours, il s'avère qu'on arrive à une parité sans qu'il y ait eu à être volontaire, sans qu'il y ait eu à aller chercher plus de femmes, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est souvent dans ce sens-là qu'il faut être attentif. Donc voilà, là, ça s'est fait comme ça. Mais par contre, si ça n'avait pas été le cas, oui, là, aujourd'hui, on se doit d'afficher une parité. Il y a une façon de trancher, de prioriser certains projets vis-à-vis d'autres.
Et il y a des lieux dans lesquels on a pu jouer qui étaient étonnés, enfin, voire même hostiles à notre présence 100% féminine. Je me souviens bien quand on avait joué en Grèce et Marion Piri donc me dit, je te préviens, cette équipe ne semble pas nous faire un bon accueil parce que elles étaient femmes, enfin c'était 3 femmes. Et en plus moi quand je suis arrivée, non seulement j'étais femme, mais j'étais noire. Donc là, c'était encore un autre degré. Donc il y avait une misogynie et un vrai racisme dans ce lieu. À tel point que cette équipe d'accueil masculine, principalement masculine, avait une femme, mais principalement masculine, ne m'a même pas adressé la parole. Ils ont serré la main d'Alain Maillet, donc le monsieur, mais c'était pour la tournée de Unwanted, donc. Et Roland et moi, c'est comme si on n'était pas dans l'espace. Et d'ailleurs, il baissait les yeux quand on passait, il regardait à gauche quand on passait à droite. Enfin, c'était vraiment une invisibilisation totale qui était pour moi à la fois pas que raciste, mais réellement misogyne, enfin vraiment anti-femme. Et d'ailleurs, je l'ai dit à la personne qui nous a invités, il était désolé, mais je pense que oui, on dérange. Enfin, cette présence-là, très assumée, peut déranger quelques-uns. Il y a une certaine diversité sur les plateaux. Il y a différents corps, différentes couleurs, différents genres sur les plateaux. Mais je trouve que c'est en face où il n'y en a pas, c'est-à-dire dans les salles. Les personnes qui rentrent dans les institutions, dans nos théâtres, dans nos musées, souvent ne ressemblent pas à celles et ceux qui sont sur le plateau. Là, par exemple, on est allé jouer à Almada au Portugal. On est allé jouer Mai au Portugal. Et ça s'est super bien passé. C'était vraiment deux très belles représentations. Et il y a une très grosse communauté capverdienne là-bas. Cependant, je pense que c'était deux soirs pleines, vraiment des centaines de personnes. Il y a dû y avoir 5 ou 6 personnes racisées dans le public. Et le lendemain, j'avais un échange avec le directeur et une journaliste devant quelques personnes. Et une personne du public m'a demandé « Qu'est-ce que cela vous fait de voir le public qui ne vous ressemble pas ?» Et j'ai trouvé sa question très, très pertinente. Je lui ai dit, déjà, moi, je suis toujours contente de présenter mon travail, qu'il y ait des personnes qui ne ressemblent pas dans le public. Déjà, pouvoir le faire, c'est quelque chose. En soi, c'est un geste artistique et politique fort. Et en même temps, j'aimerais qu'en face, vraiment, il y ait des jeunes, il y ait une vraie mixité. Mais ça, je ne peux pas le faire, ce travail-là. C'est aussi à nos institutions, à nos directeurs et directrices, à nos équipes, à vos équipes, de mettre en place un système ou un changement du système qui puisse être accueillant envers ces autres diversités.
Ces positions sont extrêmement légitimes et je pense qu'en chacun d'entre nous, nos prises de parole, elles sont multiples. À un moment donné, on va parler en tant qu'artiste, en tant que père, en tant que mère, en tant que solidaire d'une cause, en tant qu'engagé sur la défense de certains droits, en tant que scientifique. Donc voilà, on n'est pas tout ça à chaque instant. Il y a des moments où on veut prioriser notre engagement et là, en ce moment, on sent bien qu'il faut prioriser ces questions de parité, mais être attentif à ne pas non plus caricaturer, réduire les personnes que l'on soutiendrait dans cet engagement pour la parité à justement uniquement à une question d'égalité. J'allais mal le formuler, mais en tout cas de réduire une personne ou d'accompagner une personne uniquement parce que elle est de tel ou tel sexe, mais c'est comment on arrive à faire les choses de façon plus intelligente, plus généreuse et plutôt à chaque fois à partager la complexité de chaque individu à disposer de son identité plutôt que de la réduire à un critère qui fait que on va avoir tant d'hommes, tant de femmes, tant de personnes de couleur, tant de personnes porteurs de handicap. Ça, c'est, allez, je le redis, c'est des outils qui nous aident un petit peu pour gérer la crise, l'urgence. Mais si on ne transforme pas les consciences, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est troublant de voir des chiffres parfois. Vous voyez, aux États-Unis, par exemple, les quotas sont extrêmement importants. dans la représentation des personnes sur les plateaux de TV, dans les productions cinématographiques. Et pourtant, on se prend un mouvement comme Black Lives Matter et on voit bien qu'en fait, les mentalités n'ont pas spécialement énormément évolué. Voilà, on cite toujours le même, hein, François Fanon, mais il nous faut aller transformer les imaginaires. Moi, je crois très fort au fait de créer un imaginaire, une culture commune qui soit faite de plus de diversité. C'est pour ça aussi que je crois autant. C'est-à-dire que plus on aura, c'est pas parce qu'on aura mis plus de femmes, plus de personnes de couleur, plus de, dans certaines situations, qu'à l'instant, que dans l'instant, les choses vont se transformer. Mais par contre, qu'on ait de plus en plus de référents culturels femmes, qu'on ait de plus en plus de référents de personnes avec des corps racisés, bah, tout de suite, votre culture, elle est plus large, elle est plus complexe, elle est moins uniforme. Et c'est pour ça qu'il faut l'inscrire dans un parcours de vie qui, je l'espère, transforme les imaginaires et les consciences.
Ouais. Je ne sais pas comment... se fait-il, parce que les femmes, on est quand même présentes aussi sur les plateaux, mais on est peu comparé au nombre total de créateurs, de metteurs en scène, de dirigeants, de directeurs. On est encore très peu. Je me dis que c'est peut-être aussi lié, enfin, parce que dans mes collègues féminins, beaucoup abandonnent parce que soit elles ont décidé de créer des enfants, enfin, d'avoir des enfants, et ce n'est plus compatible avec le travail, parce que c'est vrai que c'est dur de trouver l'équilibre entre être mère, être artiste, enfin tout ça est, c'est un vrai équilibre, et il faut être bien accompagné aussi dans sa sphère privée pour réussir à combiner tout ça. Donc les choix souvent que font mes collègues, c'est de se retirer. Il s'avère que moi je me suis pas retirée, mais c'est aussi grâce à mon compagnon qui est présent. Mais je pense que même moi, je n'avais pas envie de m'arrêter. Enfin, comment dire, c'est pas que mes amis ou mes collègues ont envie d'arrêter, mais je me bats encore aujourd'hui de réussir à trouver l'équilibre entre ma vie de mère et ma vie d'artiste. Et en même temps, je pense que peut-être les hommes ne se posent pas trop la question, parce qu'il y a même, il y a pas aussi ce retrait-là physique quand on va accoucher, quand on veut s'occuper de, il y a la vraie fatigue post-accouchement, d'élever un nourrisson. Enfin, il y a beaucoup de choses que le corps féminin traverse qui sont parfois incompatibles avec le rythme de création, de tournée, de réflexion artistique. Mais parfois, ça, on n'y pense même pas. On ne crée pas l'espace pour les femmes qui veulent aussi avoir une vie de mère, par exemple. Quels sont les lieux qui pour moi, sont tournés vers un réel équilibre de création et de maternité, enfin, où est-ce que c'est à nous aussi de le demander, de dire... Là, je ne peux pas créer aujourd'hui une pièce en 2024 parce que il y a l'enfant qui va naître. Donc, patienter jusqu'à... On n'a pas ce luxe-là d'imposer nos propres règles. Donc, on accepte ce qui se passe et on se met en retrait. Et souvent, on revient avec une autre force, une autre puissance. Mais ce n'est pas la même question que se posent les hommes, parce qu'ils n'ont pas besoin de se retirer. Ils peuvent continuer même en étant père. Ils ne dévient pas. Et nous, on dévie, on revient, on dévie, on revient, on dévie, on revient. Après, les jeunes, aujourd'hui, je pense qu'elles sont plus combatives, quand même. C'est pour ça que j'ose espérer que les choses, à un moment donné, vont basculer aussi. Je me dis qu'il y a peut-être une génération qu'on n'a pas encore vue, ou qui est en cours, qui ne va pas, peut-être, oui, qui va peut-être choisir de ne pas enfanter, par exemple, qui va prendre une autre... d'autres décisions liées à leur propre corps et leur propre aux attentes, parce qu'il y a aussi ces attentes sociales de ce que doit réaliser une femme pour être femme, etc. Donc qui s'émancipe ou qui se libère de ces injonctions là et qui est plus combative, quoi, moins, plus subversive, enfin. Et donc je pense qu'il va y avoir de nouvelles voies, de nouvelles formes d'existence. J'ose espérer qu'il y a parce que voilà, il peut y avoir dans un futur lointain, mais je me dis que sûrement là aujourd'hui, il y a une nouvelle génération de femmes, mais qui font bouger les choses, qui vont faire bouger les choses. Après, est-ce que je serai encore là? On verra. Et si je n'y suis pas, c'est pas grave. C'est comme quand on plante une graine, on va pas voir le baobab par exemple, on va pas voir le tronc qui va pousser, mais on ose espérer qu'un jour il donnera aussi des fruits. Et ces fruits-là tomberont, et dans cette terre, il y aura d'autres qui vont naître, et ainsi de suite, leurs racines vont s'approfondir et les branches se déployer. Donc pour moi, je me dis, bon, il y a peut-être nos aînés qui ne pensent pas que nous, on serait là, mais nous voilà, nous y sommes. Et donc, nos futurs, nos petites sœurs, nos cousines, ces autres femmes, ces autres filles qui vont prendre le relais. Je leur souhaite d'être puissantes, je leur souhaite de ne pas avoir peur, je leur souhaite de savoir qu'elles ont le droit d'être là, d'être là où elles sont, qu'elles se sentent réellement légitimes d'exister dans ces espaces.
Non, ma fille, vous n'irez pas danser est une série en 6 épisodes produite par la Maison de la Danse de Lyon, imaginée et écrite par Marion Coutel et co-réalisée avec Nuit Noire, studio de création sonore immersive.